À ce moment-ci, on va joindre au bout du fil Olivier Beauregard pour faire le point sur certaines nouvelles sportives de la dernière semaine. Olivier, bonjour!
Salut!
Et on commence en parlant golf aujourd'hui, plus précisément de Rory McIlroy, parce que là, il approche d'un record de tous les temps dans la PGA.
Oui, absolument. Ça s'est passé cette semaine, soit lundi, là, pendant le championnat des joueurs de la PGA, plutôt. Écoute, c'était le championnat des joueurs, comme je le mentionnais, et ben il y a eu un tournoi assez important et c'est Rory McIlroy qui a remporté ça en prolongation. Ça a été honnêtement pas mal intéressant. C'est une prolongation de trois trous qui a été disputée lundi et honnêtement, on s'attendait à un bon match parce que McIlroy l'avait déjà remporté, mais ça a tenu les fans de golf sur leur siège jusqu'à la toute fin. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en remportant justement la prolongation, ben McIlroy a remporté sa 28e victoire sur le circuit de la PGA cette année, puis son deuxième titre pendant cet événement-là. Donc, il y a déjà vraiment, là, lui, là, une belle carte là, de présentation. C'est-à-dire, il a tellement remporté de championnats importants. Quand tu remportes ton deuxième championnat des joueurs, généralement, tu te classes parmi les très, très grands joueurs de tous les temps, parce qu'il y a seulement 7 joueurs qui ont remporté ce championnat-là à deux occasions. Des gars comme Tiger Woods, des gars comme Scottie Scheffler également qui l'ont remporté. Puis soyons honnêtes, quand on regarde un peu Tiger Woods, puis son déclin, là, je vais dire ça comme ça, mais respectueusement, tu sais que les chances qu'il remporte un troisième championnat des joueurs est pratiquement impossible. Il y a Scottie Scheffler qui pourrait toujours espérer le faire, mais il y a une seule personne, un seul golfeur dans l'histoire qui a réussi à remporter l'événement à trois reprises. C'est ni moindre que Jack Nicklaus. Mm-hmm. Jack Nicklaus l'a fait à trois reprises, lui, et ça avait été, ça fait partie du record de tous les temps. Sauf que Rory McIlroy, lui qu'on pensait peut-être faire une période de déclin il y a quelques années déjà, ben il semble, tu sais, on dirait qu'il a comme un peu trouvé la fontaine de jouvence. Il est en train de s'affirmer encore comme un très très bon golfeur, puis lui peut l'espérer. Alors cette victoire-là qui s'est faite, c'est assez drôle, là, c'est un fait cocasse, mais ça s'est fait pendant la Saint-Patrick lundi. Lui, c'est un Nord-Irlandais, Rory McIlroy. C'est comme son championnat de chance. Là, il dit comme ça parce que chaque fois qu'il joue là-bas, il connaît de bonnes performances. Il l'a remporté à deux reprises. Alors, McIlroy pourrait bientôt égaler, si tu veux, Jack Nicklaus et qui sait peut-être un jour le surpasser, sachant qu'il reste encore beaucoup de bon golf à Rory McIlroy.
Sinon, ben restons dans les records, Olivier, mais plus précisément, un record pour une somme de vente d'une équipe sportive.
Ben, écoute, ça, honnêtement, là, c'est phénoménal. On apprenait hier que les Celtics de Boston, sont sur le point de changer de propriétaire pour un montant record de 6,1 milliards de dollars. Écoute, c'est énorme, là. On n'a jamais vu ça, tout sport confondu dans le monde du sport professionnel. C'est une vente, honnêtement, ben, surtout pour une équipe nord-américaine, là, c'est une vente qui est de loin la plus lucrative de l'histoire. C'est une marque qui appartenait récemment aux Commanders de Washington dans la NFL, qui avait été vendue pour 6 milliards à peu près en 2023. Déjà là, on disait que c'est un record qui va être dur à surpasser. Mais là, tu arrives en tant qu'équipe de la NBA, puis on le sait, là, les Celtics de Boston, c'est vraiment une équipe qui connaît beaucoup de succès, c'est une franchise qui est grandiose, qui a beaucoup d'histoire. Et là, le fait de peut-être avoir remporté un championnat en juillet dernier, ben on dirait que ça fait encore plus wow comme annonce. Et je regardais rapidement, puis j'ai fait une petite recherche, je regardais les plus grosses ventes dans l'histoire des équipes sportives. Sébastien, tu vas rester surpris. Là, on parle de 6 milliards de dollars, là, 6,1 milliards de dollars pour les Celtics. Les Commanders, je vous le disais, peut-être assez proches là, à 6,05 milliards. Mais après ça, là, t'as les Broncos de Denver qui ont été achetés en 2022. C'est une franchise de la NFL également. On sait que ça vaut très, très cher. Pour 4,65 milliards.
Mais il y a une grosse différence. Oui, c'est ça. C'est une grosse différence là entre les...
Ben oui, certain. Après ça, ben, t'as eu les Nets de New York, t'as eu les Panthers de la Caroline, t'as eu les Dodgers de Los Angeles, qui avait été acheté, rappelez-vous, en 2012 pour 2,15 milliards de dollars. Honnêtement, si cette franchise-là était à vendre demain matin, sachant qu'on vient de mettre la barre pour une équipe de la NBA à une somme d'environ 6 milliards, j'ai hâte de voir, parce que honnêtement, on le dit depuis longtemps, se procurer une équipe professionnelle, c'est excessivement dispendieux. Mais là, écoute, c'est pratiquement impossible avec des chiffres qui sortent comme ça. Alors, je me posais la question, puis rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps, on s'en parlait, je pense, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, là, avant l'achat de Michael Adlauer des Sénateurs d'Ottawa, on se disait, il y a des gens qui ont démontré de l'intérêt. Il y avait l'acteur canadien Ryan Reynolds qui en avait montré. Il avait même été vu à Ottawa pendant un match. Il faisait partie des discussions. Écoute, c'est une star hollywoodienne qui gagne des millions puis des millions. Puis encore là, on n'était pas certain si Ryan Reynolds avait les reins assez solides pour pouvoir acheter une équipe de la Ligue nationale qui ne valait pas 6 milliards de dollars. Donc, tu vois là à quel point ça devient fou, là, le marché des équipes sportives professionnelles. Puis je me demande jusqu'à où on va aller, parce qu'éventuellement, ça va être plusieurs entreprises et des grosses corporations qui vont devoir s'attacher ensemble pour pouvoir, si tu veux, s'acquérir d'une franchise sportive. Parce que, honnêtement, 6,1 milliards de dollars, j'ai tombé en bas de ma chaise, c'est une somme record. Puis je pense pas qu'on est sur le prêt, sur le point plutôt, de voir cette marque-là être dépassée, de, advenant qu'une équipe sportive annonce sa vente. Pas sûr qu'il y a autant de formations qui peuvent se permettre de vendre son équipe aussi chère.
Réalises-tu combien ça peut rapporter? Si on est capable de vendre une équipe à ce montant-là, les revenus potentiels, tu sais, c'est ça là, aussi la valeur de l'équipe. Oui, il y a la marque, la renommée, ce qui gagne, mais il y a des profits potentiels qui font en sorte que tu as le goût de l'acheter à 6 milliards, l'équipe. Là.
Absolument, mais je me demande à quel point il faut que ça soit une décision dans le long terme. Tu sais, parce que je suis pas mal certain que les 10 premières années, là, ça doit pas être si rentable.
Ah, ben
ça, honnêtement, ça doit être une décision qui doit être prise sur le long terme. Mais honnêtement, je suis pas un spécialiste en fiscalité, là, mais une chose qui est certaine, c'est que c'est sûr, Sébastien, que pour vendre une équipe, comme tu disais si bien, à ce prix-là, il faut qu'en quelque part, ça vale la chandelle. Ça, c'est sûr et ça.
Sinon, différentes nouvelles en rafale là, concernant la LNH, oui.
Oui, exact. Bien, d'abord, je vais vous parler des Jeux olympiques parce qu'on sait que c'est le retour de la Ligue nationale de hockey aux Jeux olympiques qui va se dérouler en Italie en 2026. Mm-hmm. Pour ceux qui se mordent les doigts, qui ont hâte de savoir, là, on le sait que ça va se passer du 6 au 22 février 2026 à Milan, entre autres. Et bien là, le retour des équipes de la Ligue nationale de hockey, ça a été approuvé par les directeurs, par les gouverneurs de la Ligue nationale. Maintenant, on a fait une annonce parce qu'il y avait une réunion justement des directeurs généraux en Floride cette semaine. Et ce qu'on a dit, c'est que la Ligue nationale de hockey devrait annoncer 6 joueurs qui feront partie de la compétition. Je vous dis pas 6 joueurs du Canada, je vous parle de 6 joueurs au total de la Ligue nationale qui devraient participer à la compétition. On devrait annoncer ça au courant de l'été, là. On dit environ dans le mois de juin. Ça va être intéressant, mais une chose qui est certaine, les formations ne seront pas dévoilées, Sébastien, avant décembre. Alors, il reste encore beaucoup de temps avant de se gratter les cheveux pour savoir qui va faire partie de ces équipes-là. Parce que c'est drôle, pendant la compétition, la confrontation des 4 nations, on se disait, est-ce que c'était la dernière fois qu'on voyait Sidney Crosby dans une compétition où les meilleurs joueurs de la Ligue nationale dans le monde s'affrontent? J'ai hâte de voir, moi, si on va oser lui donner la chance de disputer un dernier tournoi olympique.
Honnêtement, mais ça, c'est Hockey Canada qui va décider ça. Dans le fond, c'est chaque pays, chaque nation qui décide.
Exactement. C'est chaque comité olympique qui vont décider de leur formation respective. Évidemment, sont épaulés généralement par la Ligue nationale, par Hockey Canada, etc. Parce qu'il y a un comité derrière ça. C'est souvent les directeurs généraux qui se retrouvent à monter l'équipe olympique hockey. Ben c'est souvent des gars qui évoluent dans la Ligue nationale de hockey. Tu sais, c'est souvent des directeurs généraux qui sont déjà là, qui vont monter une équipe de hockey. Alors, ce sera intéressant de suivre ce que le Canada va faire, parce que moi, pour moi, le choix logique là, de l'annonce du joueur au mois de juin, mettons qu'on décide d'annoncer un joueur pour l'équipe canadienne, ben ça va être Connor McDavid, parce que tu sais qu'il est encore jeune, parce que tu sais qu'il va se retrouver là. Après ça, par exemple, on va avoir des mois à se gratter et à se dire quels joueurs vont faire partie de l'équipe canadienne. Tu sais, il y a des gars qui sont sur le déclin. Sidney Crosby, on l'a vu, il est efficace, mais est-ce qu'il est assez efficace pour une compétition olympique? Brad Marchand, même chose. Moi, je pense qu'il va y avoir un vent de changement, alors ça va être très intéressant à ce niveau-là. Je te parlais justement de la Ligue nationale et de la formule du hockey olympique, mais on a aussi appris des nouvelles concernant la formule du repêchage qui va se passer à LA cet été. Écoute, c'est la première fois que la Ligue nationale de hockey a décidé de faire un repêchage différent, un peu comme on voit dans la NFL, par exemple. C'est-à-dire que les 50 meilleurs espoirs vont être présents à Los Angeles, mais que toutes les équipes vont demeurer dans leur marché respectif. Il va y avoir une décentralisation, dans le fond, si tu veux, du repêchage. Okay. On l'avait annoncé. C'est une formule qui est connue. Et évidemment, là, Sébastien, on ne se le cachera pas, c'est pour couper des frais aux équipes.
Ben oui.
Parce que là, tu n'amènes pas tout ton staff dans un hôtel pendant 3 semaines. Ça coûte excessivement cher aux organisations. Tu sais, nous autres, dans un niveau junior, là, on le vit, puis ça nous coûte déjà plusieurs milliers de dollars. Alors, imagine dans la Ligue nationale de hockey, c'est épouvantable. Mais tout ça pour dire que, justement, lors de la réunion cette semaine, on s'est dit que ce sera le premier essai de décentralisation du repêchage. Et ça a été voté, là, ça, l'an dernier, parce que les équipes voulaient couper, justement, des dépenses inutiles, là, je te mets ça entre guillemets. Mais ça chialait, puis ça chialait fort pendant la réunion cette semaine, tellement qu'il y a des gens qui remettent en doute cette formule-là, alors qu'on ne l'a même pas vécu encore. Alors, je vous ai dit souvent à plusieurs reprises au fil des années dans cette chronique-là à quel point la Ligue nationale, c'est une ligue de vieux ronds-de-poil, là, je vais dire ça comme ça, mais avec respectueusement, mais c'est-à-dire que ce sont des vieilles mentalités. Puis là, on a comme voulu essayer un vent de changement, puis honnêtement, c'est déjà la grogne, puis on n'a pas vécu l'événement encore. C'est sûr que ça va être spécial pour les partisans de vivre ça de façon virtuelle, là, parce que des équipes on parlait de façon virtuelle, ça va être assez étrange, puis c'est seulement que les 50 meilleurs espoirs qui vont être là-bas. Le reste vont se faire sélectionner dans le confort de leur salon, un peu comme on avait vécu pendant la période de la COVID, pendant la période de la pandémie. Alors bref, ça va être intéressant de voir le dossier. C'est sûr qu'on va le vivre au moins une fois cette année, mais je serais pas surpris, moi, que la Ligue nationale décide de changer son fusil d'épaule puis de revenir à la bonne vieille formule en présentiel.
Bon.
En terminant, Sébastien, juste te dire que c'est un match important ce soir pour le Canadien de Montréal. Je pense que jusqu'à la fin de la saison, chaque match du Canadien sera le match le plus important de la saison. Puis je m'explique, le Canadien est dans une course aux séries. À l'heure actuelle, au moment où on se parle, le Canadien est en série. Ils ont une position pour être là, mais ils vont devoir se battre jusqu'à la toute fin de la saison régulière pour pouvoir espérer y participer. Puis il y a une chose qui est certaine, tu sais, moi je te dis, c'est le match le plus important ce soir, mais il faut que ce soit le match le plus important samedi contre le Colorado, parce que si ça ne l'est pas, ça veut dire que tu ne te bats plus pour une place en série éliminatoire, puis ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ils vont affronter les Islanders à Long Island ce soir, 19h30. La raison pour laquelle je vous dis que c'est un match d'importance capitale, c'est pas seulement parce que le Canadien se bat pour une place en série, c'est également parce que les Islanders de New York, c'est une équipe qui refuse de disparaître du portrait des séries également. Cette équipe-là a remporté ses 2 derniers matchs après avoir tiré de l'arrière en temps réglementaire. Il manque Matthew Barzal au sein de cette formation-là, Noah Dobson qui est défenseur numéro 1, et ils réussissent à enchaîner des victoires. Ce que Patrick Roy fait à Long Island en ce moment, c'est inespéré, parce que on s'attendait à ce que cette équipe-là n'aille nulle part cette année. Puis là, encore au moment où on se parle, on arrive au tournant du mois d'avril, là, à la fin du mois de mars, au tournant du mois d'avril, et cette équipe-là est encore dans le portrait des séries. Sauf que ce soir, dans le cas d'une défaite pour les Islanders, ce serait catastrophique pour la suite des choses, alors que le Canadien doit absolument essayer de concrétiser sa place en série. Donc, ça va donner un match. En tout cas, je l'espère. Je ne veux pas monter les attentes de tout le monde qui nous écoute un peu trop élevé, mais je m'attends à ce que ce soit un match de haute intensité, un peu comme ce qu'on a vécu un peu plus tôt cette semaine entre les Sénateurs et le Canadien. Ça va être du très, très bon hockey ce soir. Alors, un match à suivre. C'est rare que je vais vous vendre le match du Canadien parce que vous n'avez pas besoin de moi pour l'écouter.
Non, mais quand même.
Oui, mais c'est ça. Mais ce soir, honnêtement, c'est un match qui risque d'être assez intense, puis j'ai bien, bien hâte de suivre ça.
Et on pourra s'en reparler, Olivier Beauregard. Un grand merci, puis rendez-vous jeudi prochain.
Absolument, merci beaucoup.